Salut, c'est Steven Jambot de l'Atelier des médias. Pendant 20 minutes à la radio, plus encore si vous écoutez notre podcast, on va célébrer la semaine de la presse et des médias à l'école qui s'ouvre lundi 22 mars. Cette opération se déroule chaque année depuis plus de 30 ans dans les établissements scolaires français à travers la planète. Le thème cette année est pile dans l'ADN de RFI. S'informer pour comprendre le monde. Je recevrai tout à l'heure Anaïs Adrian-Salmant, chef de projet à l'international au CLEMI, service qui coordonne l'éducation aux médias et à l'information dans l'ensemble du système éducatif français. Mais d'abord, je vous propose un gros plan sur un magazine destiné aux très jeunes enfants et qui a précisément pour ambition de les aider à comprendre le monde. Ce magazine, c'est Touk Touk. J'ai passé un coup de téléphone à sa fondatrice. Bonjour Florie Desvazières.
Bonjour.
Vous êtes française, précisément marseillaise, d'ailleurs je crois que vous y tenez, expatriée en Asie depuis une quinzaine d'années. Vous vivez actuellement en Corée du Sud et vous êtes la fondatrice du magazine trimestriel Touk Touk qui est destiné aux 3-7 ans. Pour commencer, j'aimerais que vous nous racontiez comment vous avez décidé de créer Touk Touk. Il me semble que c'est après être devenue maman.
Oui, alors c'est tout à fait ça. Je suis arrivée en Corée du Sud et j'ai très vite en fait été enceinte. Et quand mon enfant en fait est né, comme beaucoup de mamans ou comme beaucoup de parents, ma vision a totalement changé. Je suis française, mon mari est franco-portugais, donc on vit en Corée. Mon fils est né en Corée, est allé dans une crèche en Corée. Il y avait tout ce multiculturalisme. Et pour moi, c'était important d'apprendre à mon enfant ses racines françaises, mais aussi de lui parler de multiculturalisme, de voyage et bien entendu aussi de tout ce qui est biodiversité, puisque pour moi, c'est quelque chose d'important.
Et vous ne trouviez pas dans l'offre de presse jeunesse, dans les magazines pour les enfants, de contenu qui réponde à ce besoin et ces attentes ?
Alors en fait, moi, les magazines, je les trouvais des fois un peu simples. J'avais une vision peut-être plus expatriée. Je retrouvais différents médias, mais je ne retrouvais pas finalement un média où on pourrait parler de la France et du monde. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas finalement en créer un.
Et donc, vous avez décidé de créer ce magazine en vous axant sur trois axes, ou en tout cas avec trois dimensions, la culture française, les voyages et un éveil à l'écologie. Alors déjà, sur la culture française, comment on raconte la culture française dans un magazine pour les 3-7 ans ?
Déjà, tout simplement, ça passe aussi beaucoup par l'illustration. Ça va être par des petites histoires sur les traditions, sur des recettes. Ça peut être aussi sur des monuments. En fait, ça va être sur des choses qui sont assez simples. Alors, l'enfant ne va peut-être pas tout retenir. Et c'est vrai que quand on a un magazine qui est de 4 à 7 ans, certains enfants vont comprendre des choses, d'autres vont en comprendre d'autres. Donc, en fait, le magazine, finalement, on peut y revenir dessus et comprendre aussi de nouvelles choses. Et d'ailleurs, on a associé aussi le magazine avec un podcast où on peut aussi écouter des histoires qui vont être sur la culture française.
Et alors, l'idée, c'est aussi d'ouvrir ces enfants sur le monde et sur les cultures du monde au sens large, de les ouvrir aux autres.
Alors, une de nos valeurs, en fait, qui est le plus importante, c'est le respect des différences et le voyage. Donc, en fait, ça va être le voyage au sens large et le respect des différences, pas que des différentes cultures, mais aussi sur... l'égalité filles-garçons, ça va être sur le handicap, sur tout ça. Et en fait, la partie sur le voyage en fait, est assez importante pour nous, parce qu'en fait, c'est important, une de nos valeurs la plus importante, c'est le respect des différences. Et finalement, ça va être de connaître l'autre, de connaître sa culture, pour ne pas en avoir peur. Mais aussi, pour nous, les valeurs de respect des différences, c'est important pour l'égalité filles-garçons, pour le respect des différences, pour le handicap. Voilà, c'est tout style de respect des différences. Mais après, il y a vraiment cette ouverture au monde qui fait que quand on s'ouvre à l'autre, on en a moins peur et ça permet de mieux comprendre.
Alors ce magazine Touk Touk, à qui est-il précisément destiné? Puisque tout à l'heure, vous on précisait que vous étiez une femme expatriée avec votre famille. À qui est-ce que vous visez spécifiquement? Sont-ce les Français de l'étranger ou alors les Français ou les francophones même au sens plus large?
Alors en fait, ça a beaucoup évolué entre le début et aujourd'hui, puisque c'est vrai qu'aujourd'hui, on était beaucoup plus basé sur les enfants expatriés. C'est vrai que ça a été fait beaucoup plus pour les enfants expatriés, mais on a travaillé avec, pour faire le magazine avec des enseignants qui nous ont dit que ça intéressait aussi le marché français, les petits Français en fait, de connaître aussi la France et que ce n'était pas parce qu'on habitait en France qu'on ne connaissait pas la France. Donc finalement, on a commencé à s'ouvrir aussi sur le marché français. Et finalement, aujourd'hui, on a 80% des petits lecteurs qui sont en France. Ensuite, on est à peu près distribué aujourd'hui dans 27 pays.
Et combien justement de numéros sont tirés? Combien d'exemplaires paraissent chaque trimestre?
Alors aujourd'hui, on a à peu près à 3000, par trimestre, on a à peu près à 3000 exemplaires. Donc j'espère qu'on va continuer à grossir. Maintenant, on a plusieurs écoles qui commencent à s'abonner. Et on a aussi beaucoup de médiathèques en France. Voilà, donc c'est vrai que on grandit petit à petit.
Et comment fonctionne l'équipe éditoriale, vous qui êtes basée en Corée du Sud? Comment est-ce que vous fonctionnez avec les autres contributeurs du magazine?
Alors ça, c'est quelque chose qui est, on va dire, plutôt innovant, mais même si maintenant, avec le Covid, on commence à être un petit peu plus adapté. Donc moi, je suis en Corée du Sud, mais maintenant, toutes les personnes qui travaillent avec moi se situent dans différents pays. Donc, il y a une personne qui se trouve en Australie, qui s'occupe de toute la partie site Internet. Mais on a aussi des illustratrices qui sont en Espagne, qui sont en France. Tout le monde est basé, finalement, dans différents pays. Et moi, ensuite, je fais le lien depuis la Corée.
Tuktuk, c'est aussi un podcast. Pourquoi avoir choisi aussi le son pour vous adresser à votre public les 3, 4, 7 ans?
Alors en fait, dans le magazine, depuis le début, on a des parties interactives. Donc on va avoir des QR codes qui vont nous emmener sur des histoires qui sont racontées. On a aussi des cris des animaux. On va retrouver des musiques traditionnelles selon le pays ou la région. Et on a eu vraiment de très très bons retours sur le son. Donc on s'est dit que ce serait peut-être bien d'avoir encore plus d'histoires. Donc maintenant, on a 2 ou 3 histoires qui sortent par mois, donc toujours sur la thématique de la France, de la découverte du monde et de l'autre, et de la nature.
J'aimerais aussi qu'on termine par raconter les débuts de l'aventure de Tuktuk. Tuktuk a démarré sur une campagne de financement participatif. Vous aviez obtenu près de 15 000 euros de plus de 200 contributeurs. Pouvez-vous nous expliquer en quoi ça a été déterminant pour vous pour lancer cette aventure et peut-être que cela pourrait inspirer certaines des personnes qui nous écoutent et auraient envie eux aussi de lancer une aventure média?
Alors ça a été déterminant déjà parce que moi je suis la seule fondatrice de Tuktuk, donc j'ai mis tout mon argent personnel pour lancer Tuktuk, et qu'en fait il fallait aussi voir si le marché aimait le magazine ou pas, et la meilleure façon de tester c'était de lancer une campagne Ulule et de se dire si elle fonctionne c'est qu'effectivement ça intéresse et qu'on peut-être continuer. Et c'est vrai que ça a permis aussi de pouvoir payer tout ce qui était impression, puisqu'au début je n'avais pas l'argent pour lancer toute cette partie-là. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a le magazine Tuktuk, et là, en fait, dans l'année, on va lancer 2 hors-série qui seront des carnets d'expédition qu'on fait en collaboration avec des explorateurs des temps modernes qui aujourd'hui voyagent un petit peu partout dans le monde. Donc ces hors-série vont être plus axées sur l'écologie.
Parfait, merci beaucoup Florie Desvasières.
Je vous remercie.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur tuktuk-magazine.com. À bientôt.
Merci.
Pour poursuivre cette séquence sur l'éducation aux médias et à l'information, Lémi, je suis en duplex avec Juliette Labracherie, qui est journaliste à l'Atelier des médias. Salut Juliette.
Salut Steven.
Tu vas nous parler d'un petit livre paru cette semaine, son titre « Petit manuel critique d'éducation aux médias ».
Et aussi petit qu'il soit, il permet de prendre de la hauteur. Depuis les attentats de 2015 et plus récemment après l'assassinat du professeur Samuel Paty, l'éducation aux médias a ressurgi dans le discours politique.
L'éducation aux médias, c'est une nécessité. C'est une nouveauté que nous avons introduite dans les programmes scolaires. Dans ce foisonnement d'informations, il y a de l'information et de la désinformation. Et il faut qu'ils fassent la différence, qu'ils aiguisent leur esprit critique, qu'ils comprennent que l'information, ça se travaille, ça se cherche, ça se vérifie. Donc c'est ça l'éducation aux médias.
Mais que recouvre réellement cette notion? Qui est légitime pour la pratiquer et sous quelle forme? Ce sont les questions que se posent les deux collectifs à l'origine de ce livre, le collectif de journalistes La Friche et Edumédia, un groupe de chercheuses en information communication.
Juliette, ces deux collectifs estiment que l'éducation populaire est la clé.
Ils partent en fait d'une idée commune. L'éducation aux médias ne servirait pas seulement à savoir repérer une fausse information sur Internet ou à lutter contre une radicalisation, comme on l'entend souvent dans les discours institutionnels, mais surtout à renforcer la cohésion sociale par le dialogue. Les mines ne seraient donc pas réservées, par exemple, à l'intervention de journalistes dans les écoles. Elle doit rassembler des associations de quartier, des documentalistes, des médias locaux, et enfin, en fait, elle doit être l'affaire de tous. L'idée, c'est d'éviter d'adopter un schéma vertical pour réfléchir, tous ensemble, à la construction d'une information. C'est ça qu'on appelle l'éducation populaire et c'est ce que revendiquent les collectifs à l'origine du manuel.
C'est un manifeste, en fait, qui ne s'adresse pas qu'au milieu scolaire.
Le but, c'est de donner des clés aux enfants dans les écoles, mais aussi aux habitants des quartiers populaires ou de zones rurales, pour qu'ils puissent déconstruire la façon dont les médias parlent d'eux, pour que ces gens, éloignés de prime abord des médias, puissent investir en retour l'espace médiatique. En fait, il s'agit, en plus de transmettre, de donner une voix à ceux qui n'en ont pas ou pas assez.
Des exemples, peut-être ?
Le manuel nous plonge, par exemple, dans la classe média du collège Lucie Aubrac, à Tourcoing, dans le nord de la France, qui répondent par émission interposée à un journaliste d'Europe 1 qui moquait leur accent. Il y a aussi la parole des membres d'une radio associative à Amiens, ou un entretien avec une ancienne journaliste qui réalise des courts-métrages avec des écoles primaires à Barcelone, en Espagne. Ces exemples questionnent les limites de cette éducation pratique, mais aussi la faisabilité d'une éducation aux médias à travers les lunettes de l'éducation populaire. Pour ça, il faudrait peut-être que l'EMI s'étende hors de l'école de la République.
Effectivement, c'est une idée. Merci beaucoup, Juliette.
Merci, Steven.
Le petit manuel critique d'éducation aux médias est paru aux éditions du Commun. Il est disponible en librairie depuis le 12 mars.
L'atelier des médias.
Comme je le disais en introduction, la semaine de la presse et des médias à l'école s'ouvre lundi 22 mars. Aussi, j'ai convié Anaïs Adriance, Allemand. Elle est chef de projet à l'international au CLEMI, service qui coordonne l'éducation aux médias et à l'information, l'EMI, dans tout le système éducatif français. On a parlé des dynamiques actuelles de l'EMI et notamment de ses spécificités dans les établissements français à l'étranger. Bonjour Anaïs Adriance, Allemand.
Bonjour.
Présentons un petit peu l'édition 2021 de la semaine de la presse et des médias à l'école. Le thème 2021, c'est « S'informer pour comprendre le monde ». Expliquez-nous ce qui se cache derrière ce thème.
Oui, alors tout d'abord, merci de nous recevoir et de pouvoir présenter cette opération qui est une opération majeure en matière d'éducation aux médias. Notre opération de plus grande ampleur, puisqu'il y a plus de 20 000 établissements cette année qui se sont inscrits pour participer à la semaine de la presse. Un chiffre qui est en augmentation, ce qui nous réjouit, et notamment en augmentation au niveau du premier degré, donc des écoles, ce qui est vraiment important pour nous parce qu'on pense que l'éducation aux médias doit se faire tout au long du cursus scolaire des élèves. Et le thème que nous avons choisi pour cette 32e édition, c'est « S'informer pour comprendre le monde ». C'est un thème qui s'est un peu imposé de lui-même au vu de la situation internationale qui est la nôtre. Ça nous paraissait essentiel de revenir déjà aux bases de l'éducation aux médias, de donner les outils essentiels et de revenir sur les fondamentaux de ce qu'est l'éducation aux médias et d'avoir cette dimension internationale, puisque on le voit bien aujourd'hui avec la situation sanitaire, ce qui se passe dans un pays en impacte un autre en termes d'information. Donc il est vraiment essentiel d'avoir cette vision internationale et de cette conscience des flux d'information pour vraiment éduquer aux médias et à l'information de la manière la plus actuelle possible.
Alors justement, en préparant cette émission, vous m'expliquiez que la thématique de l'éducation aux médias et à l'information est de plus en plus importante et monte en puissance chez vous. Quelles sont justement les dynamiques actuelles de l'EMI ?
Alors, il y a déjà une dynamique, effectivement, au niveau international. Les organisations internationales se saisissent de ces sujets, notamment l'UNESCO, qui organise une semaine globale de l'éducation aux médias au mois d'octobre-novembre. La Commission européenne aussi, qui s'est saisie il y a 2 ans de ces thématiques-là en organisant un groupe d'experts qui permet de réunir différents participants nationaux et permettre d'échanger les bonnes pratiques. Parce qu'en fait, ce qu'on se rend compte sur l'éducation aux médias, c'est que les pratiques nationales sont assez différentes puisque les situations nationales sont assez différentes. Nous, au CLEMI, on a une spécificité, c'est notre rattachement au ministère de tutelle, qui est le ministère de l'Éducation nationale, qui nous permet d'avoir un lien direct avec les enseignants. C'est pas le cas dans tous les pays, donc c'est vraiment une de nos forces et une de nos chances. Et voilà, l'action de la commission, c'est de nous permettre d'échanger les uns et les autres sur nos pratiques et d'organiser une semaine européenne de l'éducation média qui, malheureusement, l'année dernière n'a pas pu se tenir puisque c'était au tout début du confinement. Donc voilà, les actions ont été un peu compliquées. En France, on a souhaité maintenir la semaine de la presse qui est devenue une semaine de la presse et des médias à la maison. Il a fallu s'adapter parce que la semaine de la presse commençait le premier jour du confinement et donc le premier jour de la fermeture des écoles. Donc ça a demandé un petit peu de gymnastique, un petit peu de souplesse. Mais voilà, on a proposé des contenus pour les enseignants, pour les élèves avec leurs parents aussi à la maison pour qu'ils puissent quand même s'inscrire dans ce moment. Et voyons le bon côté des choses, ça nous a donné une première expérience pour cette année, pouvoir vraiment maintenir la semaine de la presse et des médias à l'école et utiliser tous les outils qui sont à notre disposition pour que cette opération puisse se dérouler le mieux possible et avec vraiment une mobilisation constante des enseignants, des médias partenaires aussi. Nous avons 1800 médias partenaires engagés dans la semaine de la presse, des médias français, des médias locaux et des médias aussi étrangers, francophones, donc du Québec, de Belgique, de Suisse, mais également des médias étrangers qui veulent proposer leur contenu aux enseignants français ou français à l'étranger. Donc c'est vrai que c'est une grande opération.
On va y revenir. Avec la pandémie de Covid-19, vous avez mis un accent tout particulier sur l'information scientifique. Concrètement, ça veut dire quoi ?
Chaque année, la semaine de la presse est accompagnée d'un dossier pédagogique que nous proposons aux enseignants, puisqu'il y a une vraie attente de ressources de la part des enseignants, parce que voilà, faire de l'éducation aux médias, c'est une chose, mais il faut savoir ensuite comment s'y atteler et quelles thématiques et quelles activités proposer. C'est le but de ce dossier pédagogique que nous faisons chaque année avec des enseignants, des journalistes, des formateurs qui
donc
proposent...
Donc il est envoyé à tous les enseignants.
Exactement, il est disponible sur notre site internet en accès libre. Ce dossier pédagogique a donc des thématiques, et l'une des thématiques, c'est l'information scientifique. C'était un peu une évidence, encore une fois, au vu de la crise sanitaire. Nous nous sommes tous retrouvés à devenir confrontés à des informations scientifiques qui, jusque-là, étaient quand même plutôt destinées à un public assez restreint. On a tous posé des questions sur qu'est-ce qu'une revue scientifique, qu'est-ce qu'un biais cognitif, est-ce que cette vidéo YouTube de ce scientifique, je peux considérer que les informations qu'elle contient sont fiables ou pas. Voilà, on a estimé au Clémic que c'était important de consacrer une partie de ce dossier à ça, donc des contenus théorique, mais aussi des idées d'activités à réaliser avec les élèves en classe sur toutes ces thématiques. Et enfin, puisque la formation est quand même le nerf de la guerre en matière d'éducation aux médias, nous proposons des formations sur l'information scientifique pour permettre aux enseignants de se saisir de ces sujets, puisque voilà, c'est des problématiques qui ne sont peut-être pas au premier abord évidentes.
Les questions de fausses informations, d'infox, les fameuses fake news sont de plus en plus présentes et là-dessus, justement, quelle peut et quelle doit être l'approche en termes d'éducation aux médias et à l'information.
Alors, c'est vrai que c'est un sujet qu'on voit de plus en plus, qui est de plus en plus traité, notamment dans les médias. Nous, au Clémy, on a à cœur de ne pas limiter l'éducation aux médias au sujet de la lutte contre les fausses nouvelles. On pense que c'est quelque chose qui doit être beaucoup plus large et qu'il doit plus s'agir d'outiller les élèves pour devenir des bons utilisateurs médiatiques et des bons producteurs d'informations aussi. Puisque
donc, de leur apprendre déjà à bien s'informer.
Voilà, c'est ça. En fait, la nature même de l'éducation aux médias, c'est d'abord de comprendre la production de l'information, être en capacité de comprendre comment se fait un média, comment se fait un journal, comment se fait une radio. C'est notamment possible par le biais des médias scolaires, qui sont vraiment quelque chose de très important que nous soutenons au Clémy, puisque c'est en faisant qu'on peut se rendre compte de quelles sont les contraintes d'un journaliste et comment on travaille en tant que journaliste. Et également, toutes les méthodes qui permettent de savoir vérifier une information, vérifier la source d'une image, vérifier la fiabilité d'une information, avant notamment de la partager soi-même pour éviter de diffuser des fausses informations.
Comment les professeurs sont-ils formés à l'éducation aux médias et à l'information ? Je crois que vous embarquez chaque année plus de 210 000 enseignants dans cette aventure de la semaine de la presse et des médias à l'école. Au-delà des ressources que vous pouvez mettre en ligne, comment est-ce que vous les accompagnez ? Y a-t-il des formations spécifiques pour les enseignants sur ces questions-là ?
Oui, tout à fait. C'est justement une de nos activités au Clémy. Alors, la spécificité du Clémy, c'est notamment notre structure. On a une équipe nationale et un réseau de coordonnateurs académiques qui s'appuie sur des formateurs, ce qui nous permet de proposer des formations au plus proche du terrain dans chaque académie et donc d'être au plus près des attentes des enseignants. Puisqu'il n'y a pas forcément de formation initiale en matière d'éducation aux médias pour les enseignants, donc c'est une formation qui doit se dérouler tout au long du cursus des enseignants. Pour ça, nous sommes en train de développer un référentiel en matière d'éducation aux médias et à l'information. C'est-à-dire que ça doit permettre à chaque enseignant de mesurer, d'évaluer son propre niveau de connaissance pour ensuite pouvoir avoir recours au niveau de formation qu'il estime le plus utile, que ce soit les fondamentaux en matière d'éducation aux médias, vraiment les principes de base, ou ensuite des choses un petit peu plus poussées comme les stéréotypes dans les médias ou justement la question de la culture scientifique, l'esprit critique. Voilà. Ensuite, les formations peuvent être plus ou moins pointues en quelque sorte en fonction de son propre niveau. Mais tout ça grâce à un réseau, un maillage territorial vraiment présent et qui nous permet d'être au plus proche du terrain et de répondre effectivement à cette attente de formation.
Et puis vous le disiez, toute une documentation également en ligne sur le site du CLEMI pour ceux qui souhaiteraient déjà avoir une première approche. Alors pour tous les parents dont les enfants sont scolarisés dans des établissements scolaires français à l'étranger, j'aimerais qu'on parle de ces gens-là. Y a-t-il des spécificités à l'éducation aux médias dans les écoles françaises à l'étranger ?
Alors déjà, il y a un vrai engagement sur ces sujets dans les établissements français à l'étranger. On travaille tout au long de l'année avec l'AEFE, donc l'Agence pour l'enseignement du français à l'étranger, et la MLF, la Mission laïque française. Et nous avons chaque année un nombre important d'inscrits. On a plus de 1000 inscrits d'établissements étrangers à la semaine de la presse. Donc c'est déjà le signe d'un vrai intérêt sur ces problématiques-là. La spécificité, c'est que ce sont souvent des établissements qui s'intéressent beaucoup à la question des médias scolaires. Et on s'en rend compte, nous, à l'échelle nationale, par le nombre de participations à un concours que nous organisons qui s'appelle Mediatix, donc un concours de médias scolaires qui, lui aussi, est une institution au CLEMI puisqu'il existe de nombreuses années. Mais depuis 2 ans, nous avons développé une catégorie spécifique pour les établissements français à l'étranger, puisqu'en fait, c'est un concours qui s'organise au niveau académique. Donc voilà, il fallait qu'ils aient leur catégorie. Et nous avons un nombre important d'établissements qui concourent. Et surtout, nous avons chaque année des finalistes au niveau national issus d'établissements français de l'étranger et des lauréats de ces établissements, ce qui prouve qu'on a une grande qualité des productions faites par les Français de l'étranger. À titre d'exemple, il y a 2 ans, il y a une école au Maroc qui avait proposé un format qui s'appelait Photoscopie, inspiré de radioscopie de l'époque, et qui avait vraiment suscité un fort engouement du jury et qui était vraiment une production de très grande qualité avec des petits au niveau des écoles. On a aussi un autre établissement, toujours au Maroc. Il y a une vraie qualité au Maroc, des établissements français au Maroc, pour participer à ce concours. Le lycée Flaubert, qui a participé il y a 2 ans en presse, l'année dernière en radio. Et voilà, on se rend compte qu'il y a vraiment un engagement à participer là-dedans. Et un intérêt, notamment pour la web radio, comme je le disais à l'instant. C'est quelque chose qui est, en France, mais aussi à l'étranger, vraiment un média qui est très utilisé par les enseignants, puisque ça permet à la fois de travailler l'oralité, de travailler l'écrit, c'est quelque chose d'assez complémentaire. Un autre exemple, on a une web radio qui s'est montée à Bogota, avec le soutien de l'Académie de Nice, qui a proposé des formations aux enseignants à Bogota, et les élèves, les lycéens, se sont emparés de ce média pour traiter de sujets qui, dans leur contexte national, pouvaient être considérés comme sensibles. Mais voilà, les enseignants à l'étranger qui décident de s'emparer de l'éducation média sont souvent des enseignants très engagés et qui sont prêts à traiter des sujets et à laisser les élèves se saisir de sujets qui peuvent être considérés un petit peu comme sensibles, puisque l'éducation aux médias, c'est un petit peu, ça peut être un peu considéré comme une forme de baromètre démocratique d'une société, puisque voilà, si on peut enseigner l'éducation aux médias et traiter de tous les sujets, c'est un signe de bonne vitalité démocratique.
Donc on se rend compte effectivement qu'il y a une réelle vitalité des journaux et donc des web radios et des podcasts. Vous nous le dites de la part des écoliers, collégiens, lycéens dans les établissements français en France, mais aussi à l'étranger. Et le relais sur le terrain pour l'éducation aux médias et l'information, ce sont très souvent les documentalistes.
Effectivement, les professeurs documentalistes sont des acteurs essentiels de l'éducation aux médias parce que ce sont eux qui sont cette porte d'entrée en fait dans les établissements. Ce sont souvent eux qui décident d'inscrire leurs établissements aux différentes participations, que ce soit à la semaine de la presse ou à Mediatix, le concours de médias scolaires, ou encore, par exemple, au concours de Une qui est organisé par l'Académie de Créteil. Donc voilà, réaliser une que ce soit une papier ou une en ligne avec les élèves. Et c'est vrai que c'est une spécificité de la France, cette position de professeur documentaliste qui est essentielle dans l'éducation aux médias, dans les établissements français comme dans les établissements français à l'étranger, puisqu'ils ont ce rôle de coordonnateur souvent des projets.
Bon, écoutez, bonne semaine de la presse et des médias à l'école. Je rappelle que ça démarre lundi. Merci Anaïs Adrien-Salmant.
Merci beaucoup.
Je rappelle que vous êtes chef de projet à l'international au CLEMI, le Centre pour l'éducation aux médias et à l'information. À bientôt.
Au revoir.
L'amour est comme l'oiseau de Twitter. On est bleu de lui seulement pour 48 heures. D'abord on s'affilie, ensuite on se follow. On en devient fêlé et on finit solo.
Regarde à toi
et à tous ceux qui vous like. Les sourires en plastique sont souvent des coups d'hashtag.
Regarde à toi.
Ah les amis, les potes ou les followers, vous faites erreur, vous avez juste la cote.
Regarde à toi. Si tu t'aimes, garde à moi. Si je m'aime, garde à nous. Garde à eux, garde à vous. Et puis chacun pour soi. Et c'est comme ça qu'on s'aime. Et c'est comme ça qu'on s'aime, comme ça qu'on s'aime. Et c'est comme ça qu'on s'aime, s'aime, comme ça qu'on s'aime, somme. Et c'est comme ça qu'on s'aime, s'aime, comme ça qu'on s'aime, somme.
C'est bientôt la fin de cette émission, l'heure de Mondoblog Audio qui donne à entendre les blogueuses et blogueurs francophones de RFI. Partons au Cameroun où Tchakounté Kemayou s'est prêté à l'exercice d'essayer d'expliquer comment les médias traditionnels ont perdu le monopole de la diffusion de l'information au profit des réseaux sociaux. Mais avec la profusion des fausses informations, on se rendra compte qu'ils sont un petit peu sur le retour.
Les nouveaux médias sont en vogue aujourd'hui et en perpétuelle mutation depuis une décennie déjà. Ils sont particulièrement confrontés aux défis qu'entraîne l'utilisation abusive des réseaux sociaux, que sont notamment Facebook, Twitter et YouTube. Pour ces nouveaux médias, les utilisateurs deviennent un acteur central de la diffusion des informations. Ils ont cette particularité d'être des médias dits chauds, contrairement aux autres médias classiques, où l'audimat reste passif, sauf dans les cas où il a la parole. Le média traditionnel est encadré par les limites que lui impose sa ligne éditoriale. Avec les réseaux sociaux, c'est tout autre chose. Cette liberté apportée par Internet n'a jamais été la préoccupation des pouvoirs publics, qui n'ont pas encore véritablement légiféré sur son usage. Au Cameroun, les internautes évoluent donc dans un cadre juridique encore flou, bien qu'existant. Le Cameroun étant un terrain fertile à la profusion et au développement des discours de haine et violences langagières, surtout depuis le déclenchement de la crise anglophone en 2016. Internet est devenu le canal par excellence de la communication de masse au Cameroun. Il devient également le terrain de prédilection de ce type de discours. Le caractère interactif et instantané des nouveaux médias donne pratiquement le pouvoir, pas seulement aux professionnels de l'information, mais à tous les utilisateurs d'Internet. Les médias classiques ont la particularité d'avoir un pouvoir de régulation à travers les normes de l'éthique journalistique. Ils ont presque perdu ce pouvoir de contrôle de l'audience au bénéfice des réseaux sociaux. À la place de la régulation jouant le rôle de contrôle, les réseaux sociaux proposent des algorithmes. Cependant, cela ne résout pas complètement le problème du contrôle des publications. Cette masse étant difficilement contrôlable sur Internet, en plus des algorithmes et des censeurs, les professionnels sont appelés à la rescousse, à jouer pratiquement le rôle de régulateurs, de vérifieurs, d'où la nécessité de s'appuyer sur ces professionnels. C'est là qu'intervient le fact-checking. C'est la lutte contre la désinformation et contre la propagation des discours de haine sur Internet. Cette méthode de régulation est basée sur un travail de veille, puis sur la diffusion d'infos exactes qui concrétisent les fausses informations. Un exemple illustratif que vivent les Camerounais au quotidien est la guerre de communication entre le gouvernement camerounais et les hommes armés dans les régions anglophones du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Une guerre menée depuis 2017. Le plus important dans ce jeu de clics du fact-checking n'est pas de trouver la véritable origine de l'image qui circule et qui fait le buzz, mais de prouver à travers une démonstration que l'info qui circule est fausse. Cela reste néanmoins un pari difficile, dans la mesure où la vraie info qui viendra démentir la fausse ne circulera pas avec la même ampleur. C'est donc à ce niveau que réside le challenge.
Mondoblog.org.
C'était le mondoblogueur camerounais Tchakounté Kemayou que l'on retrouve sur son blog matango.mondoblog.org. Deux choses à vous dire avant de se quitter. Je vous informe d'abord que le concours Mondoblog 2021 est clos. Plus de 250 candidats nous ont soumis leur production. On se félicite qu'il y ait une part encore plus importante de femmes que l'an dernier et qu'il y ait toujours plus de pays de la francophonie représentés. La deuxième chose, c'est que l'on va fermer dans les jours qui viennent la plateforme atelier.rfi.fr. À la fois un site, un réseau social avec des fonctionnalités de blog qui ont fait de l'Atelier des médias la première web émission participative du monde francophone. C'était avant l'explosion des réseaux sociaux et vous avez vu, comme moi, que les conversations se sont déplacées, ont migré sur des plateformes comme Facebook, notamment pour ne pas le citer. Un salut amical à Philippe Couve qui a donné naissance à atelier.rfi.fr avec Simon Decreuse. On salue aussi Ziad Mahalouf, Julien Lebotte et on salue et remercie évidemment la communauté de plus de 17 000 membres qui ont fait chacun à leur façon de l'Atelier des médias une grande conversation. L'Atelier des médias, l'émission, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pouvez nous écouter en version longue sur toutes les plateformes et applications de podcast, Spotify, Deezer, Castbox, Podcast Addict, TuneIn ou encore Apple Podcast. Si vous aimez l'Atelier des médias de RFI, donnez-nous 5 étoiles sur ces applications, cela nous permettra d'être visible et donc encore plus écouté. Écrivez-nous via les réseaux sociaux ou à l'adresse atelier@rfi.fr, je vous répondrai. Merci à Simon Decreuse qui a réalisé comme chaque semaine cette émission et à Pauline Linard-Cazanave qui a piloté Mondoblog Audio. Je vous donne rendez-vous dans une semaine pour un nouveau numéro de l'Atelier des médias.